Chapitre 27. Téméraire, Gabriel descend des marches si profondément enfoncées sous la terre qu'il n'en voit pas le bout. La flamme d'un briquet noir gravé d'une tête de loup l'entoure d'une fragile bulle d'ambre, si insignifiante qu'il a l'impression d'être un plongeur silencieux dans les abysses de l'océan. La lueur dévoile des parois de roche luisantes comme des veines de charbon. Gabriel tourne sur lui-même, halluciné. Il se passe quelque chose d'incroyable. Il sait qu'il est en train de rêver. Il est parfaitement conscient qu'en ce moment même, il est couché sur le banc de la cellule de garde à vue de la gendarmerie de Saga. Il s'entend même respirer. Il n'a jamais vécu une expérience pareille. Il se dit que ce n'est pas possible. Tout est trop vrai autour de lui. Alors il glisse sa main gauche à travers la flamme qui ne vacille pas. Il ne ressent pas la moindre douleur. Il rêve bel et bien. Gabriel ignore la raison de sa présence dans les ténèbres et ce qu'il est censé faire. Ça a sans doute un rapport avec son cerveau détraqué et son problème de mémoire. Un bug dans le système. Subjugué par la capacité de son subconscient à reproduire les détails, les sensations, il reconnaît le briquet de la boîte à gants de la Mercedes. Il sent la moiteur du lieu s'écraser sur son visage. Il décide de poursuivre sa route. L'espace entre les parois se resserre, les marches deviennent de plus en plus étroites et hautes, l'obligeant maintenant à sauter à chaque pas. Son esprit réussit à imiter le claquement de ses semelles sur le sol. Il pense « c'est dingue » et il sait qu'il le pense en dehors de son rêve. Il le pense en ce moment même sur son banc et, lorsqu'il rouvrira les yeux, il se souviendra de tout. Il le sait parce qu'il le vit, là, maintenant, de façon claire et lucide. Il doit en profiter. Cette expérience est peut-être un moyen de contourner le mur de l'amnésie, d'aller voir de l'autre côté sans se faire repérer par les gardiens invisibles qui, durant l'éveil, combattent toute forme d'intrusion. Les gardiens sont peut-être endormis. Enfin, il arrive sur une surface plane, uniforme, pareille à du sable noir. Une voûte sombre s'étire et des racines d'arbres crèvent le plafond et pendent, piégées dans les aspérités de la roche humide. Ses mains organiques cherchent à lui agripper les cheveux. À n'en pas douter, Gabriel évolue sous une forêt. Des éclats ressemblant à de l'ivoire luisent sur les murs. Gabriel tend son briquet pour se rendre compte qu'il s'agit d'ossements brisés. Des morceaux de tibia, de fémur, de crâne, fichés dans la roche par une force surhumaine. Il est conscient qu'ici, rien n'a de prise sur lui, et pourtant, il sent la peur l'étreindre. Sa respiration s'est un peu accélérée dans sa poitrine de dormeur, mais il tente de garder son calme. Il ne veut surtout pas que les gardiens de l'inconscient le chassent de leur territoire. Il veut explorer le bout du tunnel et se répète « Tu ne risques rien, tu ne risques rien ». Des bruits indistincts lui parviennent du fond obscur, loin devant. On dirait de timides miaulements et plus il se rapproche, plus il perçoit des intonations humaines. Les miaulements se transforment en gémissements aigus, lents, désespérés. Ils ne peuvent sortir que de bouches féminines ou d'enfants. À sa gauche, les éclats d'eau ont été remplacés par des cadres vides, sans toile, sans motif, juste quatre morceaux de bois disposés en rectangle et plaqués contre la roche. Il ignore comment. Il a une pensée stupide à cet instant. Dans un rêve, les clous ne sont pas nécessaires. Les voix l'appellent à présent. Des chants de sirènes, dangereux, lancinants, qui répètent son prénom en traînant sur la dernière voyelle. Gabriel, Gabriel. Il y a deux tonalités différentes et il en a maintenant la certitude. L'une des voix est celle de sa fille. Il ne l'a pourtant pas entendue depuis plus de 12 ans, mais elle est là, elle l'appelle. Gabriel se met à courir. Il éprouve à la fois un puissant sentiment de liberté, mais aussi d'oppression. Rien ne le force à aller vers la niche d'encre d'où proviennent les voix, pourtant il s'y précipite. Il veut savoir ce que son amnésie lui cache. Tout est d'un réalisme sidérant. Va-t-il revoir Julie? Va-t-il pouvoir la serrer contre lui? Son cœur, son vrai cœur, accélère encore. Gabriel en perçoit chaque pulsation. Le sang tape à ses tempes et il angoisse à l'idée que le rêve puisse subitement s'interrompre. Il est incapable de dire depuis combien de temps il évolue là-dessous. Les secondes semblent se distordre. 20 secondes, 1 minute, 10. Il se baisse pour franchir un boyau et se retrouve soudain face à un grand miroir circulaire qui obstrue la bouche du tunnel. En approchant sa flamme, la surface d'argent lui renvoie les reflets de Julie et d'une jeune femme inconnue. L'émotion le submerge. De l'autre côté du miroir, Julie tend la main. Elle est juste là, à quelques millimètres de celle de Gabriel, mais inaccessible. Bien qu'elle porte encore sa tenue de sport, sa fille a vieilli. Ses cheveux juste ondulés tombent sur ses épaules. Ses mâchoires sont plus carrées et soutiennent un visage dont les traits se sont durcis. Ses mains sont noires de saleté. Elle le supplie de l'aider, de l'arracher à sa prison. Ses cris désespérés heurtent Gabriel de plein fouet. Encore une fois, il sait qu'il rêve. Tout s'évaporera dès qu'il rouvrira les yeux. Dans le monde réel, Julie ne sera pas à ses côtés. Mais il refuse de rester là à ne rien faire. « C'est toi qui dois m'aider », murmure-t-il comme si on l'écoutait. « Aide-moi à te retrouver. Où es-tu? Qui t'a enfermé ?» Elle plaque sa main contre le miroir, la retire, y laisse une empreinte pourpre. Du sang se met à couler du côté de Gabriel qui peut le toucher. L'autre fille, jusque-là roulée en boule, déploie sa silhouette. Elle est uniquement vêtue d'une longue veste de survêtement qui lui descend jusqu'aux genoux et tire Julie vers l'arrière. « Laisse-la !» grogne Gabriel. « Julie, non ! Reste avec moi ! Dis-moi qui t'a fait ça !» Julie ne semble plus l'entendre. Elle lui tourne le dos, entraînée par l'autre fille. Les reflets s'éloignent, prisonniers d'une surface d'à peine quelques millimètres d'épaisseur. Gabriel hurle, il veut étreindre son enfant, sentir l'odeur de sa peau, la chaleur de son corps. Il veut l'emmener et l'arracher à ce cauchemar. Il se jette sur le miroir et contre toute attente, c'est comme s'il traversait la matière. Emporté par son propre poids, il se sent basculer dans un gouffre. La chute l'avale. Gabriel se redressa d'un coup en apnée. Son épiglotte libéra enfin le passage et il reprit son souffle. Il regarda la paume de sa main, celle qui avait touché le sang de Julie. Il venait de vivre l'expérience la plus incroyable de toute sa vie. Un rêve dont il avait eu pleinement conscience, dont il se souvenait à la perfection. Il se frotta les paupières, se précipita vers la porte et appela Paul de toutes ses forces. Une porte claqua au loin. Louise se présenta derrière la trappe, engoncée dans son blouson. « Mon père vient de partir, que se passe-t-il »«
J'ai juste un service à te demander. Tu as ton téléphone sur toi ?»«
Oui, mais il est hors de question que tu passes un coup de fil, tu es... »«
Avec ton portable, tu as accès à Internet, c'est bien ça ?»
Louise hocha la tête. Elle ne voyait pas bien où il voulait en venir.
« J'ai besoin que tu fasses une recherche. »
Devant lui, deux topazes brillaient.
« Très bien. Sur quoi ?»«
Mathilde Lourmel. L'identité m'est revenue pendant que je dormais. Si tu as un visage, j'aimerais le voir. »
Elle s'exécuta, fronça les sourcils.
« Il y a pas mal d'articles de journaux. Attends 2 secondes. C'est une fille qui a disparu. En 2011, il semblerait. Pourquoi tu t'intéresses à elle ?»
Je te l'ai dit, j'ai rêvé d'elle. Je n'en sais pas plus.
Elle le regarda avec méfiance, puis fit d'autres recherches. Elle lui montra finalement son écran. Gabriel n'en croyait pas ses yeux. C'était exactement elle, la deuxième fille prisonnière du miroir. Il balbutia un remerciement et retourna s'asseoir, abasourdi.
Son rêve n'avait pas été qu'une invention de son esprit. Non, son cerveau avait régurgité un morceau de souvenir bien réel. Gabriel en était persuadé. Dans la vraie vie, il avait eu ces visages en face de lui. Il avait presque pu les toucher. Celui d'une Julie plus vieille, 4-5 ans, peut-être davantage. Ça expliquait en partie les demandes de profil ADN à Solène Pelletier. Peut-être avait-il réussi à récupérer un peu de leur matériel biologique dans une cave quelconque, mais quand? Au moment où il s'était rapproché de sa collègue et amie, c'est-à-dire seulement 3 mois plus tôt? Adossé au mur de sa cellule, il se prit la tête entre les mains. Il voyait encore ce sinistre décor, les ossements piégés dans les murs, les racines d'arbres crevant le plafond, l'antre d'un malade. Un prince des ténèbres qui ne s'en était peut-être pas pris à une seule fille. Il se concentra du mieux qu'il put. Mais même en creusant au plus profond de lui-même, il n'y avait plus rien, hormis l'ignoble graine du doute que le rêve avait planté sous son crâne. Julie et Mathilde étaient-elles encore vivantes aujourd'hui, enfermées dans un lieu sordide dont il avait été incapable de les extraire ?